sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Bonjour à tous. Brigitte Terzieff, élue à l'Académie des Beaux-Arts dans la section Sculpture le 4 avril 2007, a été reçue sous la coupole à l'Institut de France près d'un an plus tard, le 12 mars 2008. C'est donc son entrée officielle comme membre de l'Institut, vêtue de l'habit vert et munie de son épée d'académicien. Nous vous proposons d'écouter cette cérémonie de réception sous la coupole. Vous entendrez tout d'abord le sculpteur Claude Abeille, puis la réponse de Brigitte Terzieff.
Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames les conseillers, chers confrères, mesdames, messieurs, c'est un honneur, mais c'est aussi un grand plaisir de recevoir aujourd'hui sous la coupole, dans notre Académie des Beaux-Arts, le sculpteur Brigitte Terzieff. Elle occupe un fauteuil nouveau qui a été créé il y a peu. Elle en est donc la première titulaire. Aussi n'aura-t-elle pas à faire l'éloge d'un prédécesseur comme il est d'usage ici selon la tradition. La section de sculpture comportait récemment encore 7 sculpteurs, mais l'un d'entre eux vient de nous quitter, Albert Ferraud, dont nous savons qu'il aimait tout particulièrement l'œuvre de notre nouvelle recrue. Sa mémoire est ici présente parmi nous, à cette installation à laquelle il aurait pris tant de plaisir. Brigitte Terzieff ne s'est pas intéressée à la sculpture par hasard, ni par caprice, ni parce qu'elle se serait ennuyée dans une occupation de routine, mais parce qu'elle a répondu à un appel pressant. Un appel, mais aussi à cette inquiétude qui accompagne tout engagement artistique sérieux et qui explique les tours et les détours de sa vie et de ceux de la plupart des artistes, à partir du moment où ils évaluent les enjeux, les risques, les perspectives qu'entraîne toujours une telle décision. Il faut toutefois dire tout de suite que pour la famille de Brigitte Terzieff, l'art n'est pas une chose inconnue. Sa mère est peintre et pianiste, son père un sculpteur accompli. C'est lui qui va montrer à sa fille les rudiments de la taille de pierre, les tours de main, les ruses du métier qu'il tient lui-même de Bourdelle, qui avait été son professeur. La taille de la pierre a d'ailleurs connu une grande faveur, surtout la taille directe, pendant la première moitié du XXe siècle, grâce à nombre de sculpteurs comme Joseph Bernard, Lucien Schnegg, qui a fait le portrait d'une des premières grandes femmes sculpteurs de notre époque, Jeanne Poupelet, dont je me plais à rappeler le nom aujourd'hui. Brigitte Terzieff entre à l'École nationale supérieure des beaux-arts et s'inscrit dans l'atelier du sculpteur Robert Couturier, celui-ci que j'ai bien connu parce que j'ai été moi-même son élève, en plus d'être un grand sculpteur, est aussi un professeur étonnant. Il enseigne la sculpture sans en avoir l'air. Parle-t-il de la sculpture ? Certes, mais c'est plutôt à propos d'autre chose, comme par inadvertance. Il tourne autour du travail de l'élève sans rien dire, évoque quelques souvenirs personnels, et soudain a le geste que l'élève attend. Il désigne ce qui échappe à la cohérence et à la logique du parti pris par l'étudiant. Ce n'est pas tellement pour corriger un travail, c'est plutôt pour inviter l'élève à mieux réfléchir, pour l'aider à accéder à une autre hauteur de vue, la plus haute. Brigitte commence donc à ce moment-là de sa vie d'artiste, mais elle ne fait pas que de la sculpture, elle danse aussi. Elle apprend les gestes du corps non seulement en les regardant de loin comme devant les modèles qui posent à l'école des beaux-arts, mais en les faisant, en les éprouvant en elles-mêmes. Danse contemporaine, danse africaine, mouvement de transe, dont la connaissance lui permettra plus tard de les intégrer à son vocabulaire plastique et de les inscrire même, non sans paradoxe, dans l'immobilité de ses œuvres. Comme on le sait, le mouvement de la danse et le mouvement dans la sculpture ne sont pas sans avoir de ressemblance, et les deux disciplines s'empruntent volontiers leurs figures respectives. Mais pour Brigitte Terzieff, ces deux expressions ne sont pas encore juxtaposées, et elle va de l'une à l'autre, peut-être encore hésitante sur le choix qu'il faudra faire. Et puis, elle choisit de changer d'air, de prendre le large. Elle part pour la Yougoslavie avec une troupe de théâtre dans laquelle elle trouve l'occasion de s'essayer face au public aux 1000 travaux que réclame la représentation théâtrale. Soit qu'elle participe réellement au jeu dramatique par la danse, soit qu'elle prenne part à la mise en scène ou à la construction des décors, apprenant ainsi sur le tas, et cette fois dans la vie, ce qu'est la soudure, la peinture, la menuiserie. Cependant, la sculpture n'est pas abandonnée. C'est en effet pendant cette période qui durera 3 ans qu'apparaissent de nouvelles œuvres de taille modeste, compatibles avec la vie aventureuse du théâtre. Pour cela, elle se saisit d'un matériau très humble, très direct, qui se prête à tout assez facilement et qui répond dans l'instant aux moindres sollicitations des doigts, c'est-à-dire la terre glaise qui se durcit par la cuisson, mais aussi le ciment, celui de Bosnie qui possède des propriétés particulières. Matériau facile pour les doigts, mais non pour l'esprit du sculpteur, qui, ne rencontrant pas de résistance, doit trouver en lui-même le contrôle nécessaire. Mais, pour l'instant, c'est le besoin de parler, voire de crier, qui obsède Brigitte. Et c'est pourquoi cette matière va s'organiser au gré de son emportement et même le susciter parfois. Alors surgissent de petits volumes compacts, des mains, des visages, des gestes de démonstration, des soubresauts de colère, des postures de défi et d'agression. Ce ne sont plus des exercices d'école, mais déjà des incursions dans les problèmes de l'expression de sa vie personnelle. Ce ne sont pas non plus des succès d'années de la scène, des illustrations d'une histoire extérieure, comme elle en voit tous les soirs sur les plateaux du théâtre. La question de la nature même de la sculpture commence à se poser pour elle de manière lancinante. Brigitte Terzieff rentre à Paris en 1970. Sur le conseil du sculpteur Coutel, elle choisit un autre matériau, le bois. Le bois dur. Le bois qu'elle attaque curieusement et courageusement avec les outils de son père, outils destinés au travail de la pierre, ce qui, on s'en doute, ne facilite pas les choses. Travail sans référence direct à la nature. Travail abstrait, donc, consacré à la vie de la forme pour elle-même, de son développement dans l'espace, s'inspirant du dynamisme des troncs d'arbres, suscitant l'exaltation des surfaces polies et luisantes des bois africains. Un grand désir de découverte l'anime. Elle regarde avec attention d'autres sculpteurs déjà engagés dans le même chemin, François Staly et Cardenas. C'est ainsi que naissent de grandes flammes brunes pénétrant la hauteur de l'espace dans la légèreté de l'air qui les traverse. Tout ce travail trouvera son lieu dans une exposition qui comportait des pièces isolées et d'autres qui rassemblaient, constituaient déjà avant l'heure des installations. Mais le mot n'était pas encore à la mode. Cette plongée dans l'art abstrait, qui a duré plusieurs années, ne la satisfera pas entièrement. Cela lui a toutefois permis de comprendre beaucoup des possibilités de la forme seule. La forme qui influence ce qu'on veut dire. Tous les artistes connaissent le dilemme entre le fond et la forme, problème qui, vu de l'extérieur, semble d'une grande banalité. C'est cependant pour celui qui le vit une des difficultés majeures de l'expression, qui peut être la pierre de touche de toute une œuvre. Mais cet équilibre instable, jamais réalisé entièrement, source de revirements imprévus, de remords tardifs, de reniements même, je pense à Malevitch, sans parler de désespoir tragique, nous rend plus proches et plus familiers les artistes les plus grands. C'est ainsi qu'après avoir assimilé la géométrie sensible et souvent sereine de l'abstraction, tendance de l'art qui nous est maintenant si habituelle, Brigitte Terzieff reconnaît de nouveau en elle-même ce besoin de parler, ou plutôt de faire parler la matière à sa place. Et réapparaît la dimension théâtrale des préoccupations de notre sculpteur. Mais d'une toute autre manière, car elle a maintenant à sa disposition une plus grande maîtrise des structures et la prescience du discours à tenir. C'est prudemment qu'elle envisage d'ouvrir les digues au fleuve dont elle commence à apercevoir la nature et la force. Elle va se servir non tellement des gestes dont elle avait déjà éprouvé l'efficacité, mais surtout du traitement de la surface du matériau retrouvé, de la terre cuite travaillée à sa manière. La peau de notre corps, la peau des murs, celle des falaises, la surface des choses, leurs frontières, leurs lisières, les chevauchements, la couleur, les sursauts que la lumière éclabousse dans son écoulement le long des volumes. Elle découvre l'énigme de la surface dont parle Hugo von Hofmannsthal, je cite, « La profondeur se cache où ? Dans les surfaces. » C'est ainsi maintenant qu'apparaît tout un univers de plaques travaillées selon les accidents, les hasards, mais aussi les affirmations, les interrogations, comme dans un paysage inconnu où l'explorateur se sert de tout pour comprendre où il est, pour estimer la direction à prendre. Et si on élargit le sens de cette démarche du domaine précis de la sculpture à celui de la vie personnelle de notre sculpteur, on voit bien qu'elle sent elle-même le chemin qui est le sien, qu'elle ne connaissait pas, mais qui l'attendait, et qu'il faut qu'elle s'y engage. Elle comprend aussi que ce chemin a beaucoup de ressemblances avec celui des autres disciplines artistiques, et qu'elle parvient maintenant à cette hauteur de vue où les différences s'atténuent et où l'art commence à chanter. En effet, toutes ces plaques, tous ces morceaux de matière rongés, boursouflés ou lissés, dans lesquels viennent s'incruster des clous, des couteaux, des tubes de ferraille, ne sont pas rassemblés au hasard ni par un souci de pittoresque. Ils sont orientés par un sculpteur qui manie les plans de lumière, les surfaces d'ombre. Tout comme un cinéaste organise le scénario de son film selon une succession de plans calculés par la ferveur, ou comme un architecte déploie ses escaliers et ses élévations, ou encore comme le poète Racine qui, dans sa pièce Andromaque, découpe et tranche en scène et en acte le destin malheureux d'Oreste et d'Hermione. Maintenant, naissent sous ses doigts ce qu'elle appelle ses spectres. Ses spectres. Il ne faut pas, je crois, prendre trop à la lettre ce mot dans son sens habituel, qui, pour tout un chacun, évoque des fantômes, mais plutôt dans l'acception propre dont on se sert quand on parle d'analyse de la lumière. Car les formes qui se dressent devant nous sont bel et bien une analyse des sentiments qui nous traversent tout au long de notre vie. Sentiments non plus vraiment traduits par des attitudes de théâtre, mais révélés par la présence des volumes gonflés de sensualité, de plans éraflés ou bousculés, entassés selon des aplombs indécis, des porte-à-faux inquiétants. Les volumes ne sont pas seulement mis là pour eux-mêmes, ils sont aussi souvent traversés par des objets reconnaissables, des objets réels, comme des reliques, et celles-ci ne sont plus dissimulées ni protégées, mais au contraire mises en évidence. Elles accentuent l'action et transfigurent le schéma abstrait qui les sous-tend. Ainsi, cette création ressemble à celle du poète qui, soucieux de syllabes, de rythmes et de rimes, fait appel aux images, aux métaphores qui l'entourent, comme on fait appel dans un procès, dans un conflit, à une autre juridiction, à un ordre plus haut. Ainsi, Baudelaire, dans son poème « La vie antérieure », appelle les vastes portiques que le soleil marin teint de mille feux, les houles roulant les images des cieux, les voluptés calmes au milieu de l'azur, à moins que ce ne soit au contraire ces images, les vastes portiques et les splendeurs, lesquelles, apparues tout d'abord, réclament d'être rythmées, structurées, rassemblées dans une forme solide qui leur offre un refuge mystérieux et profond, ou comme le dit le poète, un secret douloureux. Car la sculpture est aussi, pour le sculpteur, une énigme, un secret. L'œuvre d'art n'est pas seulement une accumulation de travail, c'est une apparition. On aura beau se prévaloir de métiers, d'enseignements, d'écoles, d'académies et maintenant de ministères, c'est se rassurer un peu facilement. On se souvient qu'André Breton, ayant demandé à Giacometti à quoi il travaillait, celui-ci lui dit « Je fais des têtes ». André Breton insista « Mais tout le monde sait ce que c'est une tête ». Giacometti de répondre « Mais moi, je ne sais pas ». Brigitte Terzieff, maintenant habitée par le monde qui est le sien, et qui commence à en assumer le secret, se fait connaître par un public plus large. Différentes galeries l'accueillent, dont la galerie Art Public, plus particulièrement attentive à la sculpture, grâce à Olivier Descamps et Jacqueline Bador, eux-mêmes sculpteurs, à qui j'ai le plaisir de rendre hommage aujourd'hui. Et elle obtient le prix Bourdelle en 1997. Ce prix a l'originalité d'être décerné par un jury composé uniquement de sculpteurs, ce qui pourrait paraître tout à fait normal à tout le monde. Mais la ville de Paris a malheureusement jugé bon de le supprimer il y a quelques années. L'obtention de ce prix déclenche chez notre artiste un mouvement d'intense création, car il suppose une exposition au musée Bourdelle. Et nous verrons surgir, en 1998, dans les salles d'exposition de ce musée, rénové sous le contrôle de la fille de Bourdelle, Rodia, encore présente, ces grands poèmes matérialisés dans la terre cuite, le plâtre, le grès, le métal. Ces grandes figures ont des titres, Elle s'appelle, je cite, « Armure pour demain, lointaine présence, tête d'or, arme improvisée, chrysalide du soldat, bouclier rempart. » Mais notre artiste les décrit mieux que je ne saurais faire. Ils sont guerriers, ce n'est ni l'offense ni le pouvoir, mais l'équilibre terrestre. Comme nous, ils sont mortels et vivent de notre énergie. Insaisissables, ils se balancent dans l'inconscient à la lueur de nos aspirations profondes. Toujours en éveil, toujours actants, ils surgissent de la béance, ligaturés, acérés, ivres de silence, frères de lait dans l'odeur âcre de la terre. Amoureux des saisons, tendus, immobiles, premiers dans la tornade entre sceptre et enclume, couronne et faucille. Mais ce n'est pas tout, je cite encore. On descend pour les écouter. Ils sont confrontation et menace, sentence et remords, avec le souffle du destin pour la mort en pâture qui fertilise la vie. Positif, intègre, rigide, en défense armée, seul contre tous, dans leur ultime survivance. Ils chantent sans bouche, des airs d'opéra et racontent toujours l'histoire de la jalousie du chien pour le chant du loup. Les membres du jury du prix Bourdel, je puis vous l'assurer, étaient quand même étonnés. Certes, ils avaient vu et choisi un an auparavant entre des dizaines et des dizaines de dossiers un ensemble de photos remarquables de notre artiste, ils découvraient maintenant devant eux la poésie en marche, toutes ces stèles dressées les unes après les autres, les unes devant les autres, comme en conversation, se renvoyant ainsi qu'en un miroir leur douleur, mais aussi leur prestige. Mais n'est-ce pas pour nous ce miroir qui nous invite à voir en nous-mêmes, nous aide à vivre, à agir, à créer ce monde qui nous entoure et dont nous sommes responsables. Ce miroir que nous devons protéger car il est menacé par la sottise, par l'argent, par le fanatisme imbécile. Le monde de Brigitte Terzieff est ce miroir de nous-mêmes, tendresse et agression. Angoisse, mais aussi victoire. C'est pourquoi aujourd'hui est un jour de fête qui la voit nous rejoindre. Heureuse acquisition que l'Académie des Beaux-Arts vient de faire, un sculpteur magnifique doublé d'un poète. Je vous remercie de votre attention.
La parole est à Brigitte Terzieff.
Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames les conseillers, chers confrères, mesdames, messieurs, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Je tiens aussi à remercier Claude Abeille, cet artiste que j'admire et que j'ai eu le don, le privilège d'avoir de sa part cette sensible et généreuse présentation. J'aimerais, si vous le voulez bien, partager ce fauteuil avec le souvenir de mon père, le sculpteur Jean Terzieff, qui, j'en suis convaincue, aurait été très heureux et très fier de me savoir parmi vous. Son métier, qui est devenu le mien, m'a permis dès l'enfance l'évasion du regard, la sensation que le monde n'est pas en partage entre le réel et le fictif, mais qu'il est un seul univers, à l'accès multiple, de par sa position et le champ de vision que l'on s'octroie, lui-même apportant épaisseur, couleur et espace interne. Je suis née dans une famille d'artistes. Mon père, slave, assez bohème, ma mère très française, peintre et musicienne. Parents contrastés dans leur culture, mais unis dans leur vision d'un monde solaire. J'ai grandi dans l'enchantement baroque d'un monde chargé d'imaginaire, où l'espace physique n'avait d'importance que par l'histoire, l'événement qui nous reliait ou nous séparait. Celui de ma mère, son piano. Celui de mon père, la pierre qu'il sculptait. Et chaque enfant, leur propre invention, en opposition avec l'étroitesse de l'espace que nous partagions. Sous l'outil du sculpteur, la gradine, mordant de ses dents acérées le bloc de pierre, je voyais se découvrir, jour après jour, une épaule, une cuisse, un sein, tout un corps de femme, par la main experte de mon père, qui criait et jurait souvent quand le bruit familial l'empêchait de se concentrer. Honte. J'avais honte de notre lieu où des inventions semblables, inconnues probablement ailleurs, puissent être vues. Peur qu'une petite camarade d'école ne le répète. Aucune d'elles ne devait venir chez moi et découvrir le poteau rose. Mais malgré cette crainte, c'était aussi pour moi inconsciemment le besoin de garder secret un monde qui ne pouvait vivre que dans cette autarcie, où fleurissait de mes émotions enfantines la possibilité d'être toujours dans l'invention acceptée. Faire ses devoirs, apprendre ses leçons, à la maison je n'avais pas le temps. Il fallait me laisser envahir chaque soir, après une dure journée d'école primaire, par cette apesanteur, la magie du piano de ma mère et les femmes nues de mon père. Parfois ils chantaient aussi, ou bien ils s'accompagnaient tous les deux en concert. Alors les devoirs, vous pensez ? Mes résultats scolaires à l'école primaire fut un choc brutal. Quel fossé entre le monde merveilleux que nous pouvions inventer chaque soir et la réalité extérieure implacable. C'était une époque où, malgré la fin des bombardements, nous gardions encore dans la chair les blessures du désastre. La pauvreté des gens, la lassitude du regard de la rue, le manque de chauffage et de viande ne nous empêchaient pas de grandir, nous les enfants, comme de la mauvaise herbe, avec un appétit féroce pour le moindre croûton de pain. Tout l'immeuble où nous vivions était habité par des artistes. C'est pourquoi nous avions le professeur de piano au-dessus de notre étage qui nous donnait à mes sœurs et moi des leçons et pouvait malheureusement très bien entendre quand j'étudiais mon morceau de Diabili, c'est-à-dire juste avant le cours. Nous avions aussi le professeur de danse qui donnait ses cours à l'extérieur, le visage grave et penché de côté, très inspiré par Martha Graham. Et puis, il y avait un couple d'Espagnols qui avait fui le franquisme pour se retrouver à nouveau dans la guerre, la nôtre, celle-là. Lui aussi, sculpteur, il tapait sur son marbre au 6e étage. J'allais souvent le voir car il y avait promesse de chocolat espagnol au goût de caramel. L'ennui, c'est qu'en retour de ce cadeau, il me demandait en riant si j'aimais ses sculptures. Des femmes qui avaient des cuisses sans jambes et qui se terminaient en pointe. Je baissais la tête et préférais caresser son chat noir. Cet excellent sculpteur était Balthazar Lobo, fils spirituel du sculpteur Laurence. Excusez-moi. Merci. Mon père trouva enfin un atelier, la maison magique devint plus calme. Mais le plus important était fait. En grandissant de cette enfance, je pensais que je serais marquée à vie par la difficulté de trouver mon chemin dans la rue. Le creuset, le noyau central, serait comme le souterrain dans le monde d'Alice où la réalité serait réinventée dans un lieu clos. Mon père guidait ma main dans un monde différent où le muet, l'opaque, le lourd, l'encombrant m'apprenait que la réalité est beaucoup plus vaste, que la matière crée la lumière, la dimension invente l'espace et qu'une musique singulière s'insère dans une œuvre à l'instant où le regard s'y pose. Il est dit en psychanalyse l'importance de tuer le père pour se construire. Qu'aurait pensé Freud de ma situation alors ? Sculpteur, fille de sculpteur, lui-même fils de ciseleur d'icônes, cherchons la faille, la voilà. Il y a peut-être une autre différence d'affirmer quelque chose. Au lieu de vivre sur un meurtre, gardons la structure de base en prolongeant la maison sur pilotis. Le père garde ses empreintes et laisse à sa descendance la liberté de prolonger la demeure comme on lui semble. Ainsi, la vie engendre la vie, et ceux qui sont morts sont encore parmi nous. Être anachronique sans être rétrograde, avoir une vision personnelle sans le clamer à tue-tête, de peur que cette particularité ne s'émousse en mouvement de groupe, permettre à l'individu de s'exprimer seul avec ce que cela comporte de risque. Donner à l'art des courants variés et démocratiques. De toute façon, il y aura drainage et transmission par le doute, les blessures, la mauvaise humeur et la persévérance. Concentré de résonance face à l'énigme de ce que l'on ressent. À travers la tragédie, il y a une proposition, une grâce sous-jacente qui fait basculer la cacophonie en une douloureuse beauté. Cette voix profonde, c'est peut-être l'élan vital qui donne la possibilité de se toucher et de se reconnaître comme des aveugles devant l'inconnu. N'est-ce pas cela l'expression artistique ? Tous les grands artistes de différentes disciplines, tels Picasso, Stravinsky, Artaud, Bataille et combien d'autres, ont bu à la source de ce sang régénérateur. En affrontant les barrières, les notions trop apprises du bien et du mal, et tels des chimistes en ont disséqué les éléments, reconnaissant leur saveur particulière et dosé la composition pour en faire une force triomphante, une sorte de symphonie pour une fête païenne. L'art africain nous a beaucoup appris sur cette densité artistique. Dans la culture tribale africaine, l'esprit est à l'intérieur du corps et intercepte les forces invisibles qui s'en approchent pour prendre acte de la réciprocité des énergies, pernicieuses ou bénéfiques, et transmettre au réel les formes de la communication souterraine. Le corps, toujours en premier, en catharsis, exprime l'invisible. Sa soif de relation avec les éléments ou des forces contraires tente une accroche dans un rythme syncopé. C'est par le sang, les scarifications, la danse, la sculpture totémique, la dynamique incantatoire et le sacrifice animal que s'exercent au moment des funérailles des actes collectifs qui engagent la transcendance. Le besoin de toucher l'inaccessible ouvre sans le vouloir à l'expression artistique. Parfois, c'est en cérémonie secrète que les membres d'une tribu sollicitent les esprits et par la puissance de leur transe, envahissent un espace intérieur pour un contact plus direct avec le secret, l'énigme qui les submerge. C'est en aiguisant le don de perception par tous les sens du corps, en cherchant une approche d'intégration des forces obscures incontrôlables autrement, qu'ils stimulent la faculté créatrice, la liberté d'expression et atteignent l'acte artistique sans que cela soit leur but final. Leur principal intérêt, c'est la maîtrise du corps pour saisir les forces occultes. La grande majorité des artistes du XXe siècle s'en sont nourris. Je pense à la grande Germaine Richier, qui a su si bien recréer cette métamorphose du vivant. L'homme, ce magma,
directement pris dans la roche. L'oiseau, mi-rapace, mi-hachure de feuilles. La fourmi au corps de femme. Et l'eau, mi-sot, mi-femme. Tout est façonné sans scrupule pour la supériorité de l'homme sur l'animal. Pas d'allégorie, pas de symbolisme, mais imprégnation par tous les composants dont sont faits l'être humain et la nature. Ventre, armure, bateau, nuit, orage, tout est mélangé, trituré pour cet apocalypse ou cette fête terrienne. Chez Henry Moore, le trou, le morcellement, le découpage en profil aigu lui apporte la réinvention de l'espace. Espace interne, protecteur, volé par la sculpture elle-même ou en partage avec l'extérieur, il ouvre la lumière à ses éléments et révèle à l'ensemble une harmonie, une tonicité qui exclut toute morbidité. Pour Alberto Giacometti, tout est différent. Ce n'est pas l'extension, mais la vie recentrée, presque en un point dans l'univers. Ce point est ténu, l'existant est un signe, une trace, évidée de son poids. Cet artiste, trop souvent imité de manière facile, a été beaucoup moins compris dans son message. Sans anecdote ni misérabilisme, il restitue paradoxalement à la carcasse humaine une densité pharaonique. Là aussi, ce n'est pas la mort qui est au centre du squelette, mais bien plutôt un signe de vie intemporelle dans la structure essentielle du corps, ce qui apporte une vision tout à fait personnelle et contraire au tabou occidental sur la symbolique de la mort. J'en arrive maintenant à ma situation présente devant vous. Ce siège créé n'est-il pas transparent ? Dans le cadre de cette assise, n'y a-t-il pas un nombre incalculable de fauteuils possibles ? Si l'on offre de m'y asseoir, il faudrait savoir quelle mémoire, quelle empreinte y laisser. Parler de soi, c'est aussi parler de l'autre, et faire travailler l'imaginaire de l'autre pour sa propre histoire. Elle n'est jamais créée de toute pièce. Je dois la recentrer dans un espace, une mesure. En comparant tous les styles des époques, la nôtre tend à se rapprocher du virtuel, un peu comme l'architecture contemporaine, un matériau translucide permettant de voir la personne en angle droit ou légèrement placée vers l'arrière. Je dirais avec un peu d'humour que la position assise peut être fragilisée par un confort trompeur. En langage surréaliste, c'est l'ombre chinoise et l'ombre portée qui permet l'équilibre. Dans les sculptures de mon talentueux confrère Claude Abeille, c'est plutôt l'ombre de la personne qui se projette dans le modelage du vêtement. Comme les rides sur la peau, les plis de l'habit restituent l'esprit d'un individu, son caractère, sa déambulation et son interrogation vitale. Peut-on parler là de souffle qui prend forme ? Cet intérêt pour l'empreinte des éléments qui composent une personne, on le retrouve chez Claude Marie, qui, avec une grande exigence, privilégie souvent le travail en plâtre, matériau sobre et fragile, pour y inscrire cette interrogation dans une empreinte si particulière à sa recherche, presque monacale. Le sculpteur Robert Couturier, qui fut, pour Claude Abeille et moi, notre professeur aux Beaux-Arts, nous a appris que l'ennui est la pire des maladies, que la répétition dans les masses dangereuse et que l'aspect ludique doit être sous-jacent. Ces sculptures le prouvent. Il butine le corps féminin en choisissant ce qui le distrait. Pourquoi modeler deux seins quand un seul met un accent parfait ? L'harmonie se retrouve justement dans ce déséquilibre. Pour lui, la forme se joue du sens sans le détruire. Cette légèreté apparente est pleine d'humour et de talent. Je recentre ce sculpteur et à une autre époque, le musicien Eric Satie, une certaine correspondance. à travers l'articulation de la sculpture, j'aimerais vous parler du mobile déclencheur d'une œuvre d'art. Mais derrière le miroir, raconter le balbutiement qui conduit à la création peut constituer une introspection difficile. Cet état sauvage, intime, de gestation. Les seuls courants d'air, l'ennui, le passé qui gémit au ras des portes, la douloureuse odeur de chaque chambre d'une maison abandonnée qui donne envie de détrousser les lits pour en faire revenir les occupants. Est-ce un repas où des hommes, le sourire aux lèvres, s'entretuent à coups de mots? Est-ce la vision d'une cathédrale si grandiose que le besoin d'imprimer sa force nous réveille la nuit pour aller chercher un bout de terre et dialoguer avec elle, cette immense architecture qui, malgré les siècles, reste imprenable? Puis-je me confronter à sa démesure? Revenir à son état d'enfant, démuni, qui, bloc par bloc, entame un processus de restructuration du chaos en architecture du vécu. Est-ce le besoin de recentrer les éléments d'un jeu d'échecs, théâtraliser, créer l'événement d'une faille, d'une entrave, stabiliser sa défense face à un adversaire invisible, toujours celui-ci, cet état, ce mirage qui par moments s'échappe et nous laisse perdus, mais qui, au miracle, soit par un rêve, une lumière, un je ne sais quoi à la fin d'une journée, nous ramène au bac à terre pour pétrir à nouveau quelque chose à tâtons. Mais encore, me direz-vous, pourquoi la sculpture? Pourquoi pas la danse? Oui, c'est sûr. La danse exprime en direct les émotions du corps, ici et maintenant. Mais peut-elle retenir dans le temps ce que l'on veut exprimer? Fugace, le mouvement disparaît comme l'empreinte d'une pied sur le sable. Faut-il analyser ce qui surgit, s'impose à vous? Cette concrétisation du souffle que l'on peut dissoudre à tout moment par incompétence. Pourquoi ne pas analyser également notre sommeil ou la manière dont on marche ou le rythme de notre respiration ou les personnes rencontrées la veille qui semblent différentes le lendemain? Moissonneur du concret, la terre, le fer, les armatures sont les éléments qui structurent la statue. Et le silence, c'est prodigieux. Il coule sur la forme, il remplit l'espace et renforce l'équilibre. C'est peut-être lui, le véritable matériau de base, opaque ou léger, c'est selon. De même, une solitude incontrôlable qui prend de plein fouet toutes les verticales. Alors je porte des coups de marteau devant, derrière, je manipule la terre, je la violente, comme pour lui faire avouer son crime ou tenter de l'exorciser. Avec le temps, la transition s'opère. Des ombres prennent de la hauteur, envahissent les statues. Porte-fait de la pression du lieu, elles voyagent dans la douleur d'être debout et le plaisir de dominer la peur. Être évidées de leur substance, ils surgissent, résistent, s'imposent dans le chaos, deviennent phénix ou mutants. Le signe d'une pensée qui échappe à elle-même se fait présence et module son développement pesant. Docteurs de l'inconscient, ils acheminent l'enfant momie vers le corps glorieux de leur mémoire. Cariatides du désespoir, ils soutiennent l'inconsolable par un chant de basse venu du fond des âges, entraînant dans leur berceuse toute l'artillerie de nos vengeances qui renforce le timbre mâle de leur voix. Avec panache, ces statues caméléons cherchent dans le regard de l'autre la sculpture de leur désir. Intention inavouable, difficile à décrypter, elle restitue ce que nous ne pouvons analyser, le mouvement dense, invisible de notre être. En soldats rigoureux, ils écrasent les scories et ne gardent sur leur corps que les faits d'armes où la douleur elle-même s'est inscrite en victoire. La métaphore est là pour pour étrangler l'abéance de la mort en symbolique de la Camarde et permet de se confronter activement à un monstre plutôt que de rester sans voix devant la figure du naufrage. Une sculpture charge, récupère l'essence de ce qu'elle capte, devient mouvement interne, cristallisé, synthétisé, pourrait-on dire. Celui qui regarde la statue prend conscience ou non de son état, et s'il y a transmission possible, il devient l'acteur principal de ce qui lui a été renvoyé. À travers le corps statue, il y a un autre corps, non admis et plus insistant. Je mettrai cela en parallèle avec la grande singularité que l'on retrouve dans le théâtre No. À l'encontre d'une interprétation trop illustrative, l'acteur japonais se met dans un état de vide intérieur, ce qu'il nomme le ma, pour lui permettre de recevoir ou de capter avec plus d'authenticité la force du jeu. Décor sombre, claquement de bâtons saccadés et voix d'outre-tombe aident à faire ressortir de l'ombre et du temps la figure magnétique, l'intervenant attendu, espéré et pourtant redouté, le spectre. Il y a dans cette forme de fascination la puissance de l'inconnu, du secret, qui, à travers l'histoire des civilisations, se perpétue. Imprégnée de formes différentes suivant les cultures, cette permanence, cette soif de l'intemporel sur l'instant, cette pression, nous permet de nous confronter avec l'invisible et, par la frayeur, prendre conscience de sa propre existence. La tonicité de ces petits bâtons du théâtre No, qui martèlent les blessures, font revenir les auteurs flottants de notre inconscient, qui jonglent dans la tourmente, dans l'orgueil, dans la rage, ce souffle qui gémisse toujours sous la porte et nous émerveille par son intensité, cette jubilation pour entrer en contact avec les éléments du jeu, reconnaître leur pouvoir et créer des incidences. C'est la cadence intime, profonde, généreuse, qui explose à la lumière. Il y a un rythme interne qui nous est propre en chacun de nous. Il faut pouvoir tendre l'oreille, faire du surplace, trouver le tempo et s'engager dans le mouvement. Être amoureux de la complexité de notre condition humaine face à la beauté de l'existence et de ce qui nous est donné en cadeau, la folie artistique. Cette explosion de liberté que l'on pourrait tous atteindre si nous avions la possibilité de pouvoir toucher, écouter et reconnaître les composants extraordinaires de la vie et se confondre avec elle, en symbiose, pourrait-on dire. Tout acte artistique devient fortuit s'il n'est pas porteur de signes. L'œuvre désire l'immortalité. Cela vient de son adjonction à la vie, qu'elle capte à sa source et projette vers l'avant. La force du vécu tend vers une soif de permanence. L'empreinte d'une œuvre s'inscrit dans le temps, et cela ne me semble pas une valeur obsolète. Mais elle doit rester une proposition, une interrogation, un jeu, en quelque sorte. En ce début du XXIe siècle, l'apport extraordinaire des moyens techniques ouvre de nouveaux univers créatifs et un renouvellement des formes. Mais la dérive qui peut s'insérer dans une surabondance technique, c'est le retrait total du corps. Quand je parle de corps, je veux dire densité du vivant, respiration des éléments venus de l'homme vers une expansion plurielle. Macabre en deviendrait l'objet, sans âme, comme le veau d'or de la spéculation. L'art est lui-même une sorte de fiction, une notion où la pierre d'achoppement reste inaccessible. Dans un antagonisme profond, il exige de nous ce que nous ne pouvons percevoir nous-mêmes, la ligne d'horizon en permanence observée, toujours en veille, toujours en guerre, on attend l'intervenant dramatique ou fusionnel d'une armée imaginaire. Voilà ce que j'ai tenté de vous exprimer sur ce marmonnement intérieur, les réflexions sur la création, avec mon désordre habituel, mais en espérant vous communiquer l'intérêt de mes curiosités. Merci pour votre présence, merci de m'avoir écouté.
Vous venez d'entendre la cérémonie de réception sous la coupole de Brigitte Terzieff, membre de l'Académie des Beaux-Arts dans la section Sculpture. Sur Canal Académie, vous pouvez également écouter et télécharger une émission enregistrée dans l'atelier de Brigitte Terzieff. Bonne écoute de nos émissions et bonne journée.